Je vais laisser la parole à Dorota Takowska, qui est professeure de sciences politiques à l'Université Lyon 2 depuis 2015 et directrice adjointe de l'UMR Triangle. Les recherches de Dorota Takowska portent sur les institutions européennes, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, sur les fondations politiques, puisque elle a notamment publié un ouvrage, Le pouvoir des fondations, des acteurs de la politique étrangère allemande, donc, publié à Rennes en 2014. Et puis, ses travaux portent également sur l'intégration européenne et les problématiques liées à l'élargissement de l'Union européenne, ainsi que sur les transformations post-communistes en Europe centrale.
Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices de m'avoir invité à ce colloque commémoratif, au programme ô combien stimulant. Je voudrais commencer par rendre hommage à Étienne François, ici présent, qui a dirigé pendant de longues années un des plus beaux fruits de l'ouverture du mur de Berlin en termes académiques, le centre Marc Bloch, situé justement dans ce quartier gouvernemental et je pense aussi près datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ce centre a été ouvert en 1992 à l'initiative de la France et de l'Allemagne pour permettre aux chercheurs français et allemands de mener ensemble des recherches sur les transformations en Allemagne, notamment dans les nouveaux Länder, et aussi en Europe centrale, donc à l'est des frontières, de la frontière de l'Allemagne. Ce centre a permis, à mon sens, d'incarner l'idée « Es wächst zusammen, was zusammen gehört », à savoir la science, la recherche scientifique, et de former plusieurs générations de chercheurs en sciences sociales. J'ai eu la chance de faire partie de ce collectif, arrivé à Berlin justement au moment où la capitale y était arrivée, et donc je suis sensible à l'exposé de mon prédécesseur. Permettez-moi à présent d'esquisser les raisons pour lesquelles la perception mutuelle des Allemands et des Polonais, et plus généralement la relation entre les deux pays, a toute sa place dans la réflexion sur 1989 et sur l'ouverture du mur de Berlin. Premier aspect, rappelé par Étienne François, le 9 novembre est un événement symboliquement et politiquement marquant, bien qu'il ne s'agisse pas d'une heure zéro des transformations dans cette partie du continent. Si en Allemagne, elle succède à des mois de mobilisation dès l'été 1989, les manifestations de Leipzig, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, en Pologne, on observe cet événement à partir de la situation d'un pays qui a déjà engagé sa transition. Puisqu'il y a eu les élections semi-libres le 4 juin 1989. D'ailleurs, c'est la même date que le massacre de la place Tiananmen en Chine. Donc, double choc en Pologne, positif d'une part et négatif d'autre part, dramatique évidemment. Et donc, le gouvernement dirigé par ce premier ministre démocrate, Tadeusz Mazowiecki, est en place depuis la fin de l'été. Donc, c'est un moment évidemment très important, y compris en Pologne, puisqu'il ne signifie certes pas le début des transitions. Il faudrait remonter ici à l'époque déjà au moins de Solidarność pour parler d'un début de transition. Mais c'est un moment qui permet de redéfinir la relation avec l'Allemagne, les deux Allemagnes, mais surtout avec celle qui domine, la République fédérale. Deuxième élément, le poids de l'histoire. L'histoire germano-polonaise est marquée à la fois par une domination politique et économique du voisin allemand sur les territoires polonais que par une relation de proximité et de circulation multiple. Les Allemands étaient mêlés à des populations polonaises depuis plusieurs siècles, notamment dans les villes. Certains rois saxons étaient élus au XVIIIe siècle dans le système de monarchie élective, appelé aussi démocratie nobiliaire polonaise, qui a connu son apogée au XVIe siècle. Cette mémoire collective, bon, elle reste marquée par ces périodes des échanges ou de gouvernements communs, mais aussi notamment par le XIXe siècle, qui était une période à la fois de construction nationale et de morcellement territorial des territoires polonais entre la Prusse, la Russie et l'Autriche-Hongrie. Donc, dans les terrains annexés par la Prusse, Bismarck, le Kulturkampf, la germanisation des populations locales, marquent les récits à la fois familiaux et littéraires. Mais c'est surtout la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion par le Reich de la Pologne, qui ont laissé forcément des traces durables, avec le massacre de 22% de la population du pays, dont la moitié était des juifs, la destruction systématique des villes, de la capitale, donc de la population juive, des élites, des civils au sens large, du patrimoine, donc tout ce qui est bibliothèque, archives, et donc systématiquement. Si j'évoque ce passé, c'est d'une part parce qu'il n'était pas complètement passé, comme on va le voir quatre décennies après la fin de la guerre, et d'autre part parce qu'il avait donné lieu à de nombreuses instrumentalisations par le pouvoir communiste qui n'avait cessé d'agiter le spectre d'un revanchisme allemand pendant toutes les années de l'après-guerre. Alors, on ne dispose pas forcément d'enquêtes d'opinion dans les années 80, forcément, pour saisir les perceptions mutuelles des Allemands et des Polonais. Et donc, je me permettrai ici, de manière introductive, d'illustrer de manière plutôt subjective cet aspect, encouragé par l'exposé d'hier d'Étienne François, qui plaidait pour la prise en compte des perceptions, des émotions et donc de la subjectivité. Alors, je vais essayer d'illustrer cela avec quelques éléments de la culture populaire de cette époque et actuelle, et avec le regard qu'on n'a pas encore évoqué depuis hier, qui est celui des enfants. Donc, pas les grands témoins, mais les petits témoins, dont je faisais partie à l'occasion. Et donc, ici, c'est une illustration d'une BD que vous connaissez peut-être, qui est contemporaine. L'héroïne s'appelle Marzi, c'est un récit à peu près autobiographique. Donc, c'est une fille qui a vécu en Pologne des années 80, dans la République populaire de Pologne, et qui raconte en plusieurs tomes sa réalité quotidienne de cette époque. Dans cette BD, il n'est pas question de l'Allemagne, il est question des Soviétiques, du grand frère de Moscou, de Mireille Mathieu, parce qu'elle était déjà fascinée par la France, donc Mireille Mathieu, des séries brésiliennes. Donc je pense que c'est plutôt les personnes qui dominaient les cours de récréation, à savoir les garçons, qui étaient exposés en fait à ces séries très populaires dans tout le bloc de l'Est à l'époque, à savoir Les Quatre Tankistes et le Chien, qui racontait l'histoire de braves soldats polonais enrôlés dans l'armée soviétique et donc qui ont participé à libérer cette partie du continent. Une autre série à succès, donc les deux étaient créées à la fin des années 60 et rediffusées en boucle dans tous les pays du bloc. Je sais qu'elles étaient assez populaires, notamment la première, y compris en Union soviétique et aussi en RDA. L'autre série, et c'est aussi une BD ici, très populaire, visiblement, c'était Capitaine Kloss. Donc voilà, ici, il y avait Capitaine Flams, là c'était Capitaine Kloss, qui était un résistant polonais sous couvert d'un soldat de la Wehrmacht, qui aussi, voilà, du coup, avait une sorte de fonction de double agent. Donc voilà, ce passé était très, très présent. On a parlé aujourd'hui du présent du passé. Et donc, on peut se demander justement comment expliquer cette image assez obsédante de l'Allemagne parmi les plus jeunes. Sachez qu'en Pologne, en dehors des dizaines de titres et de dizaines de milliers d'exemplaires des revues clandestines, donc Samizdat, c'est un nom russe, mais en polonais, on parlait d'une deuxième circulation ou de la presse souterraine, voilà. Il y avait aussi une littérature enfantine pour enfants, donc cette politisation assez poussée. Et donc ici, en fait, c'est un exemplaire, un pastiche du Petit Nicolas, classique pour enfants en France. Là, c'est le Petit Nicolas à l'école de la République populaire de Pologne. Donc, avec les histoires quotidiennes où justement ils effacent le slogan « Solidarność » parce que la maîtresse leur a dit que ça ne va pas, etc. Et il y a aussi quelques références à l'Allemagne dans ce petit ouvrage dont j'aimerais bien faire un commentaire un peu critique qui, à l'époque, nous avait beaucoup distrait forcément. Et donc, l'Allemagne qui apparaît là, c'est un pays opulent et en même temps un pays dont les citoyens manifestent une certaine solidarité vis-à-vis des Polonais en envoyant notamment les paquets alimentaires parce que la Pologne des années 80 était plongée quand même dans une crise, une pénurie très importante. Et donc, voilà, il y a un des petits héros qui demande à l'institutrice pourquoi, en fait, les méchants Allemands nous envoient des paquets alimentaires, donc les Allemands de l'Ouest, alors que les bons Allemands ne nous envoient rien du tout. Je pense que pour anecdotique qu'il soit, cet épisode rappelle que les regards des Polonais étaient à l'époque clairement tournés vers l'Allemagne de l'Ouest. C'était un lieu de séjour et d'émigration privilégié. Si on allait vers l'Ouest, c'était plutôt vers Berlin-Ouest que vers la RDA. C'est vrai que la RDA, avec son régime soviétisé évoqué aujourd'hui, avec ses jeunesses, ses FDJ, ses jeunes pionniers et son absence de contestation, ne faisait pas rêver les Polonais des années 80. En Allemagne de l'Est, les médias diffusaient l'image d'une Pologne plongée dans le chaos, l'anarchie, les pénuries, ce qui n'empêchait pas certains Allemands de l'Est de venir en Pologne pour des raisons touristiques, en Mazurie par exemple, faire du canoë, parler librement aussi, ou alors pour des raisons scientifiques, et les deux étaient pratiqués par l'actuelle chancelière allemande. Alors, sans avoir l'accès aux chaînes de TV occidentales, les Polonais qui en avaient les moyens, ce n'était pas le cas de Marzi, achetaient dans des magasins spéciaux des produits de l'Ouest. Ils partaient travailler, faire des travaux saisonniers en Allemagne ou en Suède. Ils pouvaient, aussi les classes populaires, par exemple, se rendre à Berlin-Ouest pour y faire du commerce, vendre ou acheter des produits. Alors, on voit en même temps que ce qui faisait tenir aussi, c'était la satire. Le rire, on en parlait aujourd'hui. Il y a un mouvement qui se fait appeler l'Alternative Orange, qui a commencé à Wrocław, l'ancienne Breslau, qui en fait organisait beaucoup de happenings. On a consacré il y a 3 ans une exposition à Paris à ce mouvement. Et donc ici, par exemple, vous voyez, ils veulent fêter donc la journée de l'armée. Avec leur symbole, c'était un petit nain orange. Donc voilà, ce n'était pas les rouges, c'était les oranges. Et donc, voilà, les grandes manœuvres d'automne sur une des rues principales proches du marché. Et donc, c'était très populaire parmi les étudiants, les jeunes. Ça permettait un peu de décompresser. Et puis surtout, les milices, ce n'était pas la police, c'était les milices de l'État, étaient un peu désarmées parce que c'était un peu difficile de savoir que faire face aux gens, par exemple, qui fêtent la révolution d'octobre. Ils étaient tous déguisés, ils fêtaient la révolution d'octobre. Là, ils fêtaient l'armée, mais d'une manière, voilà, c'est ironique. Alors là, c'est le jour du 1er mai, donc les gens étaient censés marcher comme en RDA dans les défilés. Et là, ils ont déclaré que le 1er mai, c'était la fête de l'amour. Ici, les différents slogans, vive les liens fraternels, etc. Donc, c'est un peu détourné ces fêtes officielles. Donc, toute cette introduction pour replacer 1989 dans un contexte plus large et pour évoquer des initiatives qui ont commencé d'abord déjà avant 1989 pour dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées avant et ensuite, dans un deuxième temps, pour dire ce que signifiait 89 et ce qu'il a permis et ce qu'il n'a pas permis en fait de faire. Donc, le rapprochement progressif des Polonais, c'était bien sûr, et des Allemands, c'était tout un processus. Il y a quelques images iconiques qui restent de cette période, comme le fameux agenouillement du chancelier Willy Brandt en 1970 devant le monument commémorant les victimes de l'insurrection du ghetto de Varsovie et plus largement toutes les victimes juives du régime nazi. C'est un geste qui est devenu iconique puisqu'il a fait l'objet d'un chapitre rédigé par Adam Krzemiński, je pense, dans les lieux de mémoire allemands, co-dirigé par Étienne François et Hagen Schultz. Donc c'est un des lieux de mémoire aujourd'hui, on peut dire, de l'Allemagne qui reste. Alors évidemment, ce n'était pas le seul ni le premier des gestes symboliques, mais sans doute le plus fort de cette époque. Il y a eu déjà plusieurs initiatives mises en œuvre, par exemple par les milieux proches des églises chrétiennes, notamment de l'église protestante comme Aktion Sühnezeichen, qui a été initiée par des protestants allemands, donc venus dans différents pays pour justement travailler notamment dans les lieux de crimes nazis, par exemple. Et il y a eu aussi une déclaration des évêques polonais en 1965 adressée à leur homologue allemand, dans laquelle ils ont prononcé la célèbre formule Nous pardonnons et nous demandons pardon. Alors, je voudrais dire ici quelques mots des organisations, peut-être un peu moins connues, qui se sont implantées physiquement en Pologne et dans d'autres pays d'Europe centrale en 1989 puis 90, mais qui avaient déjà été en partie actives sur ces territoires, notamment polonais, depuis les années 70, donc depuis la Ostpolitik. Donc, elles sont proches des partis politiques, donc elles sont très proches du champ politique allemand, financées sur fonds publics, et elles proposent une coopération entre les partis politiques, mais aussi entre des ONG, les syndicats, une société civile, mais quand même politiquement intéressée au sens large. En ce qui concerne la fondation Ebert, proche du SPD, c'est elle qui s'était engagée en Pologne dans les années 70, sans pouvoir ouvrir officiellement un bureau, mais avec l'accord du gouvernement communiste, puisque voilà, le SPD et le gouvernement communiste s'entendaient pas trop mal. Donc là, c'est quelques chiffres sur l'importance de ces fondations qui, voilà, les plus grandes ont plus de 150 millions d'euros par an. Donc elles peuvent faire beaucoup d'activités à l'international et en Allemagne, donner des bourses, etc. Bien sûr, ça n'allait pas de soi d'offrir ce type de coopération en pleine guerre froide. Dans les années 60, lorsque le travail international de ces fondations se développait seulement, on voit encore le rideau de fer qui était quand même une barrière à ne pas franchir. Ici, c'est le directeur de la Fondation Ebert qui écrit à Shepard Stone, un des directeurs de la Fondation Ford, pour l'informer de ses projets en Afrique et pour dire que cela permettra de contrer les universités de l'amitié des peuples, Moscou, Varsovie, qui s'étaient un peu retrouvées à l'époque dans le même sac. Les choses ont beaucoup changé une décennie plus tard, puisque dans les années 70, eh bien, ces visites des Allemands, des responsables politiques, syndicaux et des journalistes allemands en Pologne s'étaient multipliées. Donc on est vraiment passé à autre chose. Et d'ailleurs, le pouvoir communiste polonais était très intéressé par ces rencontres. Voilà. Donc c'est aussi beaucoup de rencontres de journalistes, de chercheurs. Du côté polonais, ce n'était pas forcément des gens dans l'opposition, parce qu'on envoyait plutôt des gens bien vus par le régime. Mais ça a permis quand même de revoir justement les perceptions, les idées reçues sur les uns et sur les autres. Par exemple, lorsqu'un spécialiste des médias était envoyé, ouest-allemand, était envoyé pour donner un cours à l'université de Varsovie, il a été frappé par l'esprit critique des étudiants polonais qui, voilà, lui ont donné cette réplique-là. Oui, bon, d'accord, vous dites qu'Axel Springer, il détient de larges parts du marché, mais qu'est-ce que vous dites du fait que chez nous, un seul éditeur sort plus de 90% de tirage? Donc voilà, on pouvait dire ce genre de choses ouvertement, de manière impertinente, et donc ce n'est pas quelque chose à laquelle ce chercheur s'attendait. Donc finalement, c'était presque plus les Allemands qui étaient étonnés que les Polonais, parce que bon, les Polonais, quand ils allaient en voyage d'études en Allemagne, ils pouvaient être gentiment étonnés d'être accueillis au Bundestag, pas seulement par des représentants du SPD, à l'époque au pouvoir, mais aussi par des députés de la CDU, du FDP. Donc de voir que les représentants de ces différents partis peuvent coopérer, s'entendre, ça c'était la découverte pour les Polonais. Ce qui impressionnait aussi les Allemands, ensuite, là c'est déjà dans les années 80, c'est aussi le poids de l'Église. Alors justement, là, c'est un journaliste allemand qui coordonnait ces différents échanges, qui raconte à quel point il était impressionnant pour lui. Enfin, il n'osait même pas demander une visite à l'épiscopat, et finalement, ce sont les communistes polonais qui lui ont proposé cette visite, sachant que l'Église avait un vrai poids. Donc il dit, voilà, on a visité d'abord le comité central, et puis le comité central de l'Église. C'était impressionnant. Donc voilà, c'était ce genre de découverte qu'on pouvait faire à l'époque. Alors, tout cela étant dit, 1989 marque quand même un changement, puisqu'on peut désormais officiellement s'implanter en Pologne, les bureaux des fondations, d'autres organisations. C'est une année à nouveau très importante, et donc une troisième raison pour laquelle 1989 et le 9 novembre sont indissociables dans l'histoire des Allemands et des Polonais. En fait, le 9 novembre 1989, le chancelier Kohl n'était pas en Allemagne, il venait de s'envoler pour la Pologne. Il venait de s'envoler pour la Pologne en tant que premier chef du gouvernement de la communauté européenne pour marquer le début des bonnes relations entre ces deux démocraties. Nouvelle, si on regarde la RDA aussi, pour parler de la frontière, du dédommagement éventuel pour les victimes polonaises de la guerre, surtout pour les travailleurs forcés. Ce point n'aura pas été réglé à l'époque. Et donc, le chancelier Kohl imaginait la longue soirée qu'il a vécue au château de Varsovie, lorsqu'il a été informé des tensions à Berlin, de l'annonce par Günther Schabowski de l'ouverture possible de la frontière, et puis à la fin de soirée, de ce qui s'est passé au mur, de l'ouverture du mur. Et bon, il était toujours coincé en Pologne avec des téléphones qui ne marchaient pas très bien, etc. Le lendemain, pareil, il ne pouvait pas s'envoler à l'aube, puisqu'il devait déposer une gerbe au même endroit que Willy Brandt, au monument pour les victimes juives de la guerre et du ghetto de Varsovie. Là, c'était impossible de rater ce moment, ça aurait été très mal perçu. Donc, il a déposé sa gerbe, il s'est envolé par la Suède, vers Bonn, puis Berlin. Et puis, il est rentré en Pologne le 12, parce que c'était une visite d'État prévue de 5 jours. Et les Polonais, c'était toujours très délicat, on ne pouvait pas les quitter comme ça au bout de 12 heures ou de 24 heures. Et surtout, il y avait cette messe de réconciliation qui a été planifiée, prévue à Kreisau, qui est aussi un endroit très symbolique. C'est un village situé près de Wrocław, ancienne Breslau, où se trouve la demeure en fait, de la famille von Moltke, qui a fini par se révolter contre Hitler, et donc dont le représentant a été fusillé. Et c'était un endroit choisi par les deux pays pour ce geste symbolique qui devait aussi marquer les mémoires, qui va être célébré dans quelques jours aussi le 30e anniversaire, et qui devait marquer donc le début de la période du bon voisinage et de la coopération amicale, comme on se plaisait à raconter dans les années 90. Voilà la maison de cette famille qui a été rénovée d'ailleurs avec les fonds allemands, ou plutôt la dette polonaise que les Polonais avaient du mal à rembourser et donc que les Allemands leur ont permis de rembourser de cette manière-là. Et donc cette maison est devenue une maison de coopération, de rencontre entre les Allemands et les Polonais. Elle accompagne bien d'autres initiatives comme une sorte de offage polonais permettant des échanges de jeunes, etc. Donc les fondations allemandes, elles ont mis en place des coopérations politiques, chacune avec le parti de sa couleur politique, donc les Verts avec les Verts, qui est un peu inexistant en Pologne, donc c'était un peu compliqué. La fondation Konrad Adenauer de la CDU espérait pouvoir aider à créer un parti chrétien-démocrate. Ça n'a pas complètement marché en Pologne non plus, où le parti qui a émergé finalement était soit libéral, soit vraiment nationaliste et donc impossible de travailler avec eux. Donc ça n'a pas toujours été facile. Ces fondations soutenaient différentes ONG ou think tanks, mais bien sûr quand on donne à certains ce qui était suffisamment moderne, pro-européen, libéraux, eh bien ça crée du ressentiment chez d'autres. Donc ce n'était pas forcément des choses très, très simples. Ce que ces fondations essayaient de faire en Pologne, c'est aussi calmer un peu les esprits des Polonais qui pouvaient être un peu surchauffés rapidement face aux déclarations de la frange conservatrice de la CDU-CSU autour de l'Union des expulsés allemands, Bund der Vertriebene. Et donc là, certaines responsables politiques comme Erika Steinbach, qui était la responsable pendant de longues années de cette union, eh bien ça donnait vraiment des spasmes aux Polonais. C'était très très mal perçu. Déjà à l'époque communiste, c'était assez instrumentalisé autour de cette idée de revanchisme allemand. Et donc cette femme politique qui faisait partie en gros des backbenchers de la CDU, qui n'était pas la femme politique la plus médiatisée en Allemagne, c'était devenue une des femmes politiques les plus connues en Pologne, qu'on mettait à la une des revues, des hebdomadaires, etc. Bon, c'est quelqu'un qui a quitté la CDU et qui aujourd'hui est la présidente de la fondation proche de l'AFD, de l'extrême droite. Donc je pense qu'elle a trouvé sa place là où elle a cherché. Pour finir, 20 ans après, donc il y a 10 ans, que sont devenues ces perceptions des Allemands et des Polonais? À l'époque, nous étions en train de rédiger, il y a 10 ans, le bilan d'un projet de recherche ANR sur les conceptions ordinaires de l'Europe, où, avec Jay Rowell, je m'étais attelée à un chapitre dans lequel nous avons comparé les perceptions, la mobilisation du passé, de la référence au passé par les Allemands et par les Polonais, vis-à-vis de l'Europe, mais finalement, on voit qu'ils parlent parfois de l'autre pays. Donc ici, quelques extraits, selon les groupes sociaux, parce que ce qui nous intéressait était aussi la composante sociologique, qu'est-ce qu'on peut dire de l'autre pays? On voit qu'ici, chez cet Allemand de l'Est, il y a une sorte d'amalgame entre, en gros, la violence de l'unification allemande et la violence de l'élargissement de l'Union européenne. Donc je trouve ici un point de vue, on peut dire est-allemand clairement. On s'est intéressé pas seulement aux personnes qu'on interroge souvent, les personnes instruites, diplômées, mais aussi à des personnes vivant dans des lieux reculés, à des agriculteurs, à des personnes sans abri, des personnes qui se sont retrouvées parfois sans abri du fait des transitions en Pologne. Et là, on voit un jeune homme pas très instruit habitant à la campagne qui rappelle ce sentiment d'injustice. Hitler a perdu la guerre et pourtant ils sont plus riches. Donc voilà, c'est dit, on est des mots assez simples, mais ça exprime ce sentiment d'injustice historique selon lequel c'est l'Allemagne de l'Ouest qui a reçu quand même le plan Marshall, tous ces financements américains et autres, alors que les pays qui se sont trouvés de l'autre côté du rideau de fer, eh bien, ils n'avaient rien du tout, il fallait qu'ils envoient leur charbon en Union soviétique. Donc on voit que ce passé du côté allemand est assez différent, il est assez peu présent, comme le corrobore des sondages récents que je vais citer à la fin. On voit que ce passé ressurgit seulement chez des personnes les plus instruites, dans un contexte scolaire, comme ici par exemple un déplacement dans le lieu de l'ancien camp allemand d'Auschwitz. Ici, effectivement, ce jeune homme assez décomplexé dit que là, il s'est senti un peu bizarre parce que quand même, c'était une drôle de situation, on le regardait, mais dans l'ensemble, il se sent bien, il n'a aucun complexe à dire « je suis allemand ». Donc voilà, ça représente cette génération actuelle qui n'est pas forcément « geschichtsbesessen », en fait. Ce passé, est un peu passé. Alors, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion les plus actuelles, il y a quelque chose qui s'appelle le baromètre germano-polonais qui permet de suivre l'évolution de ce que les uns disent des autres. On voit que ces divergences ne sont pas importantes, mais elles restent quand même. L'histoire est la première association évoquée en Pologne quand on leur demande aux enquêtés, l'Allemagne, ça vous évoque quoi? Bon, l'histoire et puis le pays voisin. En Allemagne, l'histoire, ça évoque quelque chose seulement pour 7% des personnes enquêtées. Sinon, par rapport à la Pologne, c'est le tourisme et la culture. On voit que voilà, la sympathie par rapport à l'autre pays, voilà, ce n'est pas des choses forcément très surprenantes. En revanche, le dernier point, 48% des Allemands interrogés considèrent le gouvernement polonais comme un partenaire crédible dans l'Union européenne, mais seulement 35% des Polonais interrogés. Donc voilà, c'est un peu des choses que l'on retrouve, entre autres, dans ces sondages. Pour finir avec les fondations, je pense qu'elles étaient importantes dans les années 90 et le début des années 2000 jusqu'à l'élargissement de l'Union européenne pour aider à ce que ces liens se mettent en place. Après, avec le développement des sources d'information et de partenariats, elles sont devenues moins importantes, elles se sont un peu dépolitisées. On voit par exemple aujourd'hui la fondation Rosa Luxemburg, proche de Die Linke, s'occupe d'éditer l'air billet de Rosa Luxemburg que l'on trouve aux archives nationales à Varsovie. Donc ce type d'activité qui n'est pas voilà, de la coopération partisane au sens propre du terme. Et pour finir, aussi pour préparer cette intervention, j'ai regardé le discours de Willy Brandt le 4 novembre 1990 lors de la première session du Bundestag de l'Allemagne unifiée. C'est un discours assez intéressant où il met en garde devant les différents risques, dangers, et il dit aussi qu'il est important de veiller à éviter à ce que l'Europe, à nouveau, ce que les différentes parties de l'Europe s'éloignent l'une de l'autre. Il met en garde devant le déplacement des murs de méfiance et de repli sur la frontière Odernes et celle du Bug. Et donc, je pense que c'est une mise en garde qui reste à méditer. Voilà. Merci.